hors champ. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir avec Angela Ricky Luki et Yervan Djanikan. Vous appelle les Djanikan.
De Djanikiani.
Djanikiani, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble?
Un peu plus de 30 ans. Nous avons commencé en 75.
Alors avant de devenir des cinéastes et d'inventer un nouveau rapport au cinéma, vous étiez tous les deux des artistes.
Oui, nous sommes encore des artistes dans une certaine manière. Et j'ai utilisé le cinéma comme art. Et Angela vient directement de la peinture. Elle était élève, quand elle était très jeune, de Oskar Kokoschka.
Et comment avez-vous découvert le cinéma comme support principal de votre démarche artistique? Et au départ, c'était à partir d'objets que vous trouviez, à partir de collections que vous faisiez?
Oui, nous sommes partis des objets et nous sommes encore retournés sur les objets après beaucoup d'années, des objets sur le fascisme, sur le nazisme, que le jeu de pommes avait montré, Daniel Ibon avait montré au jeu de pommes quelques années avant, et jusque dans ce moment, sont à la Biennale de Venise. Dans la dernière biennale à l'Arsenal, cette collection est montrée.
Alors, est-ce qu'on peut parler de l'archéologie de votre démarche? Comment s'est inventée votre démarche au départ avec ces objets? Et comment et pourquoi vous avez décidé d'accompagner vos premiers films, votre premier cycle de films, parce que vous êtes l'auteur d'une cinquantaine de films au moins. Vous avez décidé au départ de votre premier cycle d'accompagner la projection de ces films d'odeurs.
Oui, c'était notre ancien travail, que maintenant c'est un travail oublié que nous ne pouvons plus reprendre. Et c'était un accompagnement des odeurs, c'était une sorte de performance. Nous montrons le film, mais ce n'était pas des objets, et on ne se sent pas les odeurs des objets, mais c'était un travail sur la mémoire que nous avons abandonné.
Angela,
nous, on ne parlait pas de bande sonore ou de bande originale. On appelait ça une bande olfactive, c'est-à-dire que c'était un accompagnement des images, un accompagnement qui donnait une suggestion totalement différente.
Mais aujourd'hui, vous reconnaissez quand même ce travail, même si par définition, il était éphémère. Est-ce que ce travail d'une démarche artistique et d'une remémoration sensorielle vous a permis ensuite d'arriver à votre second cycle de cinéma?
Oui, parce que nous sommes sortis du monde des galeries d'art à l'époque, parce que nous les avons trouvées pas démocratiques à l'époque, à un certain point. Et nous avons découvert l'archive, une autre sorte d'objet, l'archive cinématographique.
Alors comment s'est faite cette découverte d'archive et comment avez-vous inventé ce nouveau rapport au cinéma? À partir de quelles sources vous êtes-vous inspiré? Comment s'est fait ce gisement?
Oui, c'était que nous avons trouvé au début des matériaux, une grande collection qui appartenait à un gérarque fasciste. C'était la fin des années 70 et nous avons trouvé ces matériaux sur le fascisme italien en F5. C'est un format avec la perforation centrale.
Et nous avons perforation centrale, ça veut dire
que la perforation, c'était pas comme le 35 mm ou le 16 que c'est à côté du photogramme, mais c'était dans la moitié entre un photogramme et l'autre. Et nous avons, c'est impossible de voir ce matériau parce qu'il n'y avait plus de projecteurs qui pouvaient marcher. Alors nous avons commencé à bâtir des machines pour revoir les objets dans ce nouvel objet qui était le photogramme. Et nous avons commencé à photographier chaque photogramme. Et ça a commencé notre démarche d'archiviste et de copiste, dans une certaine manière.
Vous êtes comme les peintres de la Renaissance.
Oui, ou comme des copistes égyptiens, peut-être aussi.
Techniquement, comment se déroule ce travail? De temps nécessite-t-il? Est-il par définition très fragile? Parce que quand on voit vos films, tous les deux, on voit aussi les déchirures sur le plan de l'image. Vous êtes des archivistes qui restituez la matière même de l'image avec tout son poids du passé.
Oui, nous recommençons toujours de la même manière de travail. Nous retournons en arrière. Au début, nous avons vu les signes des personnes qui avaient vu les photogrammes, les signes laissés sur la pellicule, les empreintes des mains, des doigts.
Les doigts qu'on voit d'ailleurs dans votre travail quelquefois.
Oui, oui, et surtout dans le pays barbare, nous avons trouvé les matériaux déchirés par les mains de ces voyeurs qui voyaient le corps nu des femmes africaines après la conquête de l'Éthiopie. Et alors nous avons travaillé aussi sur ces matériaux.
Sur les photogrammes, aussi sur les particuliers des photogrammes.
Ce que nous faisions, c'est que nous reprenions et reprenons des détails, des détails du photogramme.
Però sul nostro film Kroghez,
mais sur notre film, on a découvert le 9,5 mm avec ce principe de la perforation centrale, et ça a été une découverte importante. Parce que ça a été la première fois que nous avons utilisé du matériel de fiction et non pas du matériel documentaire. Et il y avait à ce moment-là tout le grand cinéma qui était présent, cinéma de fiction de l'époque, avec des scénarios de Léger, par exemple. Tu te souviens ?
Le cinéma muette, oui. Pour l'histoire du cinéma, était entré dans les années, à partir des années 20, après l'invention de Pathé, et entré dans les maisons, et alors toute l'histoire du cinéma. Et nous avons employé 4 années à faire Kroghez, ce film sur le 9,5, un film que maintenant le négatif s'est perdu.
Où trouvez-vous vos sources d'archives ?
Nous sommes des. Dove troviamo le nostre fonti?
Alors, où est-ce que nous trouvons nos sources? Eh bien, il y a des gens qui nous donnent des choses. Les gens nous connaissent. Par exemple, du pôle à l'équateur, c'est quelque chose qu'on a trouvé par hasard dans un vieux laboratoire de Milan qui était sur le point d'être détruit par son dernier propriétaire. Et personne ne voulait récupérer les films documentaires. Et cet homme était en train de tout jeter, les vieilles machines qui avaient appartenu à Luca Comerio, qui a été le grand spécialiste du documentaire italien. Et dans un instant de fureur, il était en train de tout détruire. Et par hasard, Yervant l'a rencontré, il a réussi ainsi à sauver ce chef-d'œuvre qu'est du pôle à l'équateur. Et puis, on a aussi travaillé sur un très bel objet également d'archives de Luca Comerio que cet homme était sur le point de détruire. Ceci montre bien le manque d'intérêt complet des cinémathèques italiennes pour le témoignage des grands films italiens. Il n'y avait pas le moindre respect à ce moment-là pour cette grande école du documentaire.
Et ces archives, si vous ne les aviez pas ressuscitées, elles seraient jetées à la poubelle.
Brûlé.
Vous faites un travail d'historien du cinéma aussi.
Oui, oui, nous ne sommes pas des philologues, mais nous sommes devenus des historiens, sans le vouloir, parce que nous sommes toujours intéressés à ce que l'image veut dire et à son période historique. Le nôtre est devenu un travail analytique aussi de l'histoire. Quelqu'un a dit que nous sommes des ethnographes des comportements à travers le cinéma.
Alors il faut expliquer ce que vous faites, parce que ce que nous voyons, nous, avec vos films, ce sont la revisitation d'images d'archives sur lesquelles vous êtes intervenu. Vous avez colorisé, vous avez mis de la musique, quelquefois du texte, vous avez ralenti quelquefois l'image, vous avez fait sortir de cette image des personnages, des regards, des émotions. Donc, pouvez-vous décrire votre technique ? Est-ce que quand vous trouvez une source d'archives, d'abord, votre souci premier, c'est de le numériser ?
Non, nous sommes dans une époque numérique, mais nous sommes encore liés à la pellicule. Et nous
Vous travaillez uniquement sur la pellicule ?
Oui, nous travaillons encore.
Vous prenez des photos des pellicules que vous trouvez dans les différentes sources d'archives ?
Oui, nous travaillons, nous essayons encore de résister à la fin, à la mort du cinéma. Et c'est ça que nous sommes encore des résistantes de la pellicule. C'est une lutte un peu perdue. Mais nous, la numérisation a été faite sur ces derniers films. Après, nous refilmons avec la pellicule.
Vous refilmez avec la pellicule. Pouvez-vous expliquer comment, Angela ?
Mais nous avons, comme si j'ai créé, une caméra analytique.
Alors ça, vous avez inventé cette caméra analytique. Pouvez-vous expliquer ce qu'elle est, ce qu'elle fait ?
Oui, la caméra analytique, reprendre le cinéma photogramme par photogramme. Alors chaque photogramme qui nous intéresse est repris avec une autre caméra.
Donc vous faites du montage en quelque sorte ?
Nous faisons du montage dans la caméra. Dans une certaine manière. C'est un montage mental qui devient pratique. Nous refotographons le cinéma.
Image par image.
Image par image.
C'est donc chaque film demande un travail de combien d'années ?
Du Paul Alicater a duré 5 années.
5 années pour
cinq
chaque
années.
Film.
Et nous avons tourné photogramme à la main, photogramme par photogramme.
Quand vous dites tourner, ça veut dire que vous faites acte de cinéaste en refotographiant les images d'archives que vous sélectionnez.
Oui, oui, mais photogramme par photogramme, comme une photo par une photo. Et alors, pour du Paul Alicater, nous avons tourné 400 000 photogrammes.
Alors ça, du pôle à l'équateur, c'était votre
film.
Premier film de votre second cycle.
Oui, c'était notre film plus important. C'est un film qui dure 101 minutes. Et nous avons commencé à le faire en 81 et nous l'avons terminé en 86.
Alors comment choisissez-vous vos images et vos thématiques ? Parce qu'on peut dire que votre travail est à la fois... Angela et Yervan est à la fois poétique et politique.
Si, nel nostro lavoro l'etico et l'esthetico.
Effectivement, l'éthique et l'esthétique sont deux choses importantes pour nous dans notre travail. Ce qui est important pour nous, c'est que l'image est une valeur éthique, mais également une valeur esthétique. Il faut qu'elle soit belle, cette image. Il ne faut pas oublier non plus qu'on quittait une période de l'art où l'image se devait de ne pas être belle. L'arte povera, l'art pauvre, ou d'autres courants, l'art brut par exemple. Et moi, j'ai toujours pensé qu'une image, elle devait être belle et pas simplement avoir un impact et une dimension éthique. Vous comprenez ? C'est un binôme qui pour moi a toujours été de pair.
Alors qu'est-ce qu'une image belle pour vous ?
L'image est belle pour moi.
Pour moi, l'image belle ne sera pas forcément belle pour un autre. Moi, je viens de cet univers de l'art et l'image belle, c'est une image qui doit toucher l'imagination, susciter la fantaisie également. C'est une image qui doit être acceptée et aimée également.
Et pour vous, Yervan, une image belle ?
Oui, une image belle qui me donne une sorte de chose électrique. Quelque chose aussi, peut être aussi une image ambiguë qui doit être expliquée, qui me fait chercher les sources, qui me fait lire des choses. Parce que toutes nos images et nos films qui sont en général silencieux sont des films qui obligent le spectateur à lire. Mais nous sommes les premières à lire.
Alors il faut dire que votre cinéma inspire beaucoup d'émotions alors que rien n'est expliqué et c'est à chacun d'entre nous, spectateurs, de se laisser emporter par le flux des images que vous nous proposez. Est-ce qu'à chaque fois que vous faites un film, et je rappelle qu'il y en a une bonne cinquantaine, est-ce qu'à chaque fois, il y a un seul gisement d'images? Ou est-ce que vous pouvez faire des films à partir de plusieurs sources d'images et d'archives?
Pour un pays barbare, nous avons utilisé différentes sources. Et c'est notre film où la voix joue un rôle important, parce que nous avons, après beaucoup d'années de silence...
De films muets,
dans un certain...
Mais qui criaient en même temps. Les films étaient muets, mais les images criaient.
Oui, c'est vrai. Et nous avons...
Les films que nous avons portés à Cannes en 2004.
C'est Uomo.
Uomo, c'est un film qui hurlait.
Oui. Et nous avons toujours eu envie d'explorer ce qui est arrivé après la Première Guerre mondiale, et qui avait les matériaux du fascisme. Et alors, dans ce film, nous avons trouvé aussi, au début, quand nous avons fait du Paul Lécater, nous sommes entrés aussi en possession des images de Mussolini à Piazzale Loreto, de son corps et de la foule surtout. Nous étions intéressés à la foule qui était allée avoir l'auteur des massacres que nous appelons massacre sans images. De son massacre.
Alors comment avez-vous trouvé ces images de Mussolini ?
Nous les avons découvertes parce qu'il gisait dans l'archive de Luca Comerio, dans les descendants de Luca Comerio, qui avait parcouru toutes les périodes du siècle, des périodes loyalistes, du roi, de la Première Guerre mondiale et du fascisme.
Alors qui était ce Luca Comerio dont vous avez découvert toutes ces archives ? Est-ce que c'était un émissaire du roi ?
Il était un émissaire du roi. Il n'était pas capable de survivre à l'époque sonore. Mais son élève, on a continué et sont entrés dans la partie fasciste du nord de l'Italie. Et ils ont continué à filmer la République de Salò aussi. Et ils ont filmé avec une caméra très petite, 16 mm. Et le film n'a pas été séquestré par les Américains à Piazzale Loreto. Nous avons cette négative. La chose incroyable, c'est que le négative n'a pas été édité.
Personne n'avait vu ces images avant que vous les découvriez.
Personne ne les a vus, mais oui, ils ont été vus, mais nous les avons retravaillés à la notre manière. Nous sommes descendus dans les détails.
Angela, pouvez-vous nous expliquer comment, à partir d'une image, par exemple les images de Luca Comerio, comment vous travaillez une image ? Est-ce que c'est le détail qui vous intéresse ? Est-ce que vous essayez d'abord de comprendre la cohérence d'une image ? Comment se fait ce travail archéologique, unique au monde?
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le détail. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Vous voyez, par exemple, vous allez prendre la foule de pays barbares, ce qui nous intéresse, c'est de faire ressortir les visages, sortir du général pour arriver au détail, au visage, à l'expression particulière de cette personne et de cette foule. Pas une foule anonyme, nous cherchons les personnes au sein de cette foule. Comme dans le film, par exemple, que nous avons fait sur la guerre, et dans ces films, nous n'avons pas pris, si vous voulez, les fils de soldats. Ce qu'on a essayé de retrouver, ce sont les visages des soldats, leur donner un visage à ces soldats. Et nous avons découvert ainsi, par exemple, que dans les Alpes, au moment de la guerre dans les Alpes, on envoyait à la guerre des jeunes, littéralement des garçons, des gamins, très très jeunes. On les voit, ces jeunes qui plaisantent, qui sourient, qui se taquinent, alors que généralement, dans les documentaires que l'on voit à la télévision, ce que l'on voit, c'est cette masse de soldats, la file, la colonne de soldats, mais sans qu'on y voit une personnalité en particulier.
Quel est votre but en faisant ce travail d'empêcheur d'oubli? Est-ce que c'est un travail qui vise à nous faire nous éveiller à la dictature? Parce que le principal de votre travail porte sur la dictature, le fascisme, l'asservissement de tous.
Mais tout le notre lavoro fin dall'inizio.
Depuis le début. Depuis du pôle à l'équateur, donc, depuis que nous avons commencé à travailler, nous avons voulu faire quelque chose, un film sur la violence, violence sur l'environnement, violence faite aux animaux, faite également à l'homme, l'homme qui est violent contre l'homme, et ça c'est la guerre. Et nous avons à ce moment-là fait ce film sur la violence, et on s'est dit, bon, l'argument est épuisé, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis après, on s'est mis à étudier les films d'archives et on s'est rendu compte à ce moment-là que la violence, en fait, est sans fin. Et ce film que nous avons fait, qui porte précisément sur la violence du fascisme, le montre.
Il y a tout un pan de votre travail aussi qui porte sur le génocide arménien.
Oui, il y a des raisons mystérieuses liées à notre travail qui sont mystérieusement liées à un génocide ou à différents génocides, parce que des génocides pas reconnus, surtout ceux de l'Arménie. J'ai l'archive, par exemple, de mon père, des milliers de pages qu'il a écrit en silence et sans dire à personne qu'il était en train d'écrire ce qu'il a passé quand il avait 12 ans. Il avait 12 ans et pour 4 années, il avait perdu sa langue arménienne, il avait appris le kurde, il était un esclave dans le Kurdistan. Il avait perdu toute sa mémoire et à l'époque que nous faisons du pôle à l'Équateur, que nous l'avons terminé, il a décidé, après 10 années, de lire son journal, de son retour à son pays à pied, ancien déjà. Il a marché pour 100 kilomètres. Il avait 76 ans. Il est retourné voir son village détruit. Et il est retourné après des mois, et sans raconter rien. Mais une fois, j'ai découvert qu'il écrivait et il lisait dans un dictaphone ce qu'il disait. Et j'ai découvert son voyage à travers cette bande sonore.
Il ne vous en a jamais parlé ?
Non, mais non, il ne m'avait jamais parlé. Mais je l'ai découverte et je lui ai demandé de lire quelque chose. Il a décidé après 10 années. Et alors nous avons fait cette registration de 80 minutes que l'année, 2 années avant à l'ISAS nous avons montré le film et j'ai lu en parallèle en français les choses qu'il disait, chose que nous avons fait déjà à la Cinémathèque à Paris et au Jeu de Paume avec notre ami Christian.
Donc votre travail, c'est à la fois d'être des ethnographes, d'être des mémorialistes, d'être des raconteurs d'histoire, mais aussi en même temps de porter témoignage sur la violence de l'Europe. On peut dire que partout, dans tous vos films, c'est les racines de la guerre, les racines du fascisme sont à l'intérieur de ce grand corps de l'Europe, Angela.
Oui, c'est, notre culture, c'est d'Européens. Siamo degli europei, la nostra cultura.
Nous sommes des Européens, notre culture est européenne.
Et
en examinant, lisant l'histoire, les archives, ce que l'on constate, c'est que l'Europe s'est suicidée avec ces deux guerres mondiales, avec les guerres civiles, avec le fascisme.
Et anche col colonialisme.
Et avec le colonialisme, au final, également.
Et
c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Elle va où, cette Europe, dans cette débâcle de notre culture à laquelle on assiste, que l'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de textes que j'ai pu lire. On voit qu'il y a une espèce de débâcle qui est en train de se produire de cette culture. J'ai lu des livres, moi, par exemple, sur la musique de la Mitteleuropa, la grande musique de Mahler, de Strauss, de grands compositeurs. Et cette musique, si vous voulez, en fait, c'est de la parlotte. C'est vraiment des discussions sans objet profond. On a cette espèce de feinte histoire de l'Europe qui nous est servie.
Et maintenant, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, on peut voir une rétrospective de votre travail, Angela Ricci-Lucchi et Yervan Janikian. Et on est absolument saisi par la beauté de ces images, le côté hypnotique de ces images. Dans ce centre Pompidou, on est enveloppé par ces images. Là, on vient d'entendre un court extrait de Tzigane. Mais votre travail, en dehors de la beauté formelle qui nous retient, est aussi un travail éminemment politique. Pourquoi avez-vous choisi les Tziganes comme sujet principal d'un de vos derniers travaux, Yervan Janikian?
Nous avons commencé à travailler sur les Tziganes dans l'année 2001. Et nous avons montré Rome, Homme. C'est le titre de ce film, que c'est un fragment de 13 minutes. Et Harald Zeman l'avait montré dans la chambre de Victor Hugo, où Victor Hugo est mort pendant son exposition à Paris, Aube. C'était l'année 2003, je pense, ou 2004. Et comme dernier rêve du poète, c'était en boucle. Et alors c'était possible de voir cette famille de Tziganes qui retournait en Italie après le génocide de leur peuple. Et il y a un petit garçon qui dort sur la terre et avec un chapeau sur le visage, et une main d'un bourgeois qui passe lève le chapeau pour voir le visage et le réveille. Et alors nous avons commencé à travailler, à chercher des autres matériels sur les Tziganes. Et c'était l'année 95, nous étions à Sarajevo pendant la guerre, pendant une pause de la guerre d'une semaine. Et nous avons, toute la ville était éteinte, une soirée très froide de janvier. Et sur une colline, il y avait une fête tzigane où pour trouver la femme tzigane plus belle. Et alors c'était le seul signe vital de la ville pendant le siège. Et dans les années après, récemment, nous avons trouvé des autres morceaux des films de voyageurs en Inde qui chassaient et filmaient. Et c'était l'année 36, pendant la guerre d'Éthiopie, des Allemands et des Italiens ensemble, et qui ont trouvé une autre famille, Rome, Tzigane, Kuchi s'appelait, cette groupe indienne qui vivait près de Bombay à l'air ouverte. Et il y a des signes de les femmes, des symboles de la maternité. Et à côté de l'autre écran, nous avons mis un groupe de Roms, seulement des femmes et des enfants sur des chameaux qui passent sous le Bouddha de Bamiyan. Et c'était l'année 78, l'année avant l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan.
C'est ça qui est terrible dans votre travail, c'est que non seulement il porte témoignage de minorités qui sont encore aujourd'hui pourchassées à travers le monde, et là plus particulièrement il s'agit des Tziganes, mais en même temps il y a une dimension mémorielle d'une civilisation qui aujourd'hui n'existe plus. Là, vous parlez des Bouddhas de Bamiyan, il n'existe plus. Dans votre dernier travail, vous avez retrouvé des photographies et des films attestant de la civilisation irakienne, afghane, des temples que vous montrez, des villes entières qui ont été détruites au cours de ces récentes guerres.
Nous cherchons toujours les liens et les images des conflits, avant que les conflits et les destructions sont arrivés. Et nous entrons, le film commence avec le titre « Welcome to Baghdad »,« Bienvenue à Baghdad ». Ça commence, et c'était l'année 66.
La destruction des grands musées de la Mésopotamie. Manque la destruction humaine.
Mais aussi la destruction des vies humaines.
Et Et on le voit
dans le film, on voit cette population misérable, pauvre, et qui a été très très malmenée, violentée par ces conflits. Des conflits qui ont commencé en 91, la première guerre c'était en 91.
Et abbiamo iniziato la parte sull'Afghanistan.
Et puis nous avons également débuté cette partie sur l'organiste avec cette très belle phrase.
Il re Babur
qui parle du roi Babur,
qui énumérait
les innumérables quantités de fleurs qu'on pouvait trouver, innombrables fleurs que l'on pouvait trouver en Afghanistan. Des fleurs qui ont été coupées pour toujours. Il n'y aura plus de fleurs, il n'y en a plus. Ce n'est que destruction. Et jour après jour, on entend des récits les plus abominables les uns que les autres sur ce qui s'y passe.
Noi oggi assistiamo veramente con dolore a questa distruzione.
Nous assistons avec douleur vraiment à cette destruction, destruction de notre grande culture.
La nostra culla, la Mesopotamia,
notre berceau, c'est la Mésopotamie.
Et questa distruzione della cultura,
et cette destruction de la culture du Moyen-Orient, de la Méditerranée, c'est quelque chose qui vraiment, véritablement nous angoisse.
Et anche la violenza, appunto, come dicevo, di
sans parler
umani.
Aussi de cette violence qui concerne les humains.
Dicendo che portavamo la civiltà in
on
Irak,
a dit qu'on apportait avec nous la civilisation
la
en Irak, qu'on venait avec dans notre panier la libération de la femme, par exemple.
Mentre la vita delle donne, per esempio in Afghanistan,
la vie des femmes en Afghanistan, elle est devenue beaucoup plus dure en réalité.
Sì, a me interessano sempre in questi materiali anche il rapporto.
Et moi,
dans
ce type de matériaux que nous travaillons, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport avec les femmes.
Che vivono queste condizioni
des femmes qui
terribili.
Vivent ces conditions terribles.
Et la vita per loro si è veramente di nuovo,
pour elles,
si può dire, ristrette,
la vie c'est restreinte, c'est refermée, si je puis dire, pour elles.
Et noi non possiamo più viaggiare in quei paesi,
on
come
peut plus voyager
in questi
dans ces pays,
documentari.
Alors que c'était le cas au moment de ces documentaires. Possibilité à ce moment-là de...
Anche noi, allora, alla fine,
de
siamo
se déplacer,
prigionieri di queste guerre.
Même nous, donc, nous sommes en quelque sens aussi les victimes de ces guerres.
Io
donc,
vorrei vedere di nuovo la Syrie,
moi, je voudrais revoir la Syrie.
Ma è impossibile andare
c'est impossible
in
actuellement.
Ce qu'il en reste. On ne sait pas ce qu'il en reste.
Certo, sì, infatti.
Bien sûr.
Mais on comprend en voyant votre travail à tous les deux que la destruction des vies humaines est consubstantiellement liée à la destruction de la civilisation et de la beauté.
Sì, questa violenza che si vuol fare, che fanno su
cette violence effectivement que l'on fait subir à cette grande culture.
Non solo la cultura, ma
la
vita di questi paesi.
À la culture, il y a la vie même de ces pays.
Anche la loro grande cucina, no?
Leur cuisine, leur grande cuisine aussi. Elle est magnifique.
È una violenza che però che fanno a noi.
Et c'est une violence qui nous est faite à nous. Alors quand je dis nous, je dis qui?
Noi siamo quelli che portiamo là questa distruzione.
Nous sommes ceux qui avons amené indirectement cette destruction.
E nel film c'è una facciamo una domanda e
et on pose une question dans le film. Nous disons
sconvolge il Medio Oriente,
qui embrase le Moyen-Orient. Qui l'a,
cioè, noi vogliamo qui che chi vede il film si ponga questa domanda.
Je veux qu'on se pose cette question en regardant le film. Nous voulons cela.
Noi lo sappiamo chi l'ha fatto.
Nous savons bien. Nous savons bien
qui
l'a fait, qui a embrasé et qui le fait encore.
Alors, comment regarder votre œuvre? Comment s'en imprégner? En tout cas, le Centre Pompidou, à travers votre rétrospective, pose la question. Et je crois que vous avez été amplement consulté pour ce parcours. D'ailleurs, je dis aux auditrices et aux auditeurs qu'il faut prévoir très longtemps pour aller voir votre travail plusieurs heures, mais vous avez souhaité à la fois qu'on soit debout devant certaines de vos œuvres, notamment l'homme en mouvement, qu'on puisse se déplacer en même temps que les images que vous nous proposez de voir. Et il y a des salles où il y a plusieurs écrans allumés simultanément et d'autres où il y a un seul écran. Pourquoi ? Comment regarder votre œuvre ? Je pose la question à chacun d'entre vous, Yervan Janikian.
L'exposition des installations commence par les trois écrans de la Marche de l'Homme. C'est un travail que nous avons fait pour la Biennale de Venise dans le plateau de l'Humanité. Il y a trois écrans. Et le premier vient de l'école d'Étienne Gilles Marais, Homme nègre marche. C'était le titre du siècle 19e, c'était la fin, avant le cinéma. Nous avons mis en mouvement un groupe de Sénégalais qui passe et nous avons noté que ce regard, cette vision est une vision scientifique, sans aucun racisme ou sans aucune chose contre les Africains. Il y a un fond blanc où les hommes noirs passent et les enfants, comme il avait fait les hommes blancs passer sur un écran noir. Et c'est aussi le spectateur qui marche et le temps marche, parce que le second, c'est, le titre, c'est 1910, pendant une expédition cinématographique sur un lac. L'homme chasse le pélican sur un bateau et il utilise un homme noir comme un chien pour aller le prendre. Et il retourne, il montre l'œuvre du chasseur avec le sang des oiseaux. Ils ont amené, les cinéastes, ils ont amené une valise avec des vêtements, avec une chose pour la table, pour mettre les plats, et des vêtements de femmes aussi, et d'hommes. Et alors, on montre comme il mange, comme c'est une chose grotesque. Et c'est la première image vraiment raciste dans le documentaire que nous connaissons de l'Afrique. Et le spectateur marche encore et arrive au troisième écran où nous montrons un 8 mm des années 1960 où un homme avec la cravate pose avec des enfants, des femmes nues. Et il, avec ses lunettes, il regarde dans la caméra. Avec son...
Un trofeo di caccia.
Comme un trophée de chasse. Hein.
Oui, et après donne de l'argent à ces deux femmes.
Angela, comment faut-il regarder votre travail ? Assis, couché, debout ?
Con la testa sveglia.
La tête éveillée.
Et dans cette installation, les choses pour moi importantes sont les intertitles. Et sono le domande che noi poniamo
sont
al
les
pubblico.
Questions
ancora
qu'on
una
pose
volta
au public,
facciamo
en fait.
Delle domande.
Là, une fois encore, nous posons des questions.
Et c'est une domande qui dit.
Il y a une question notamment où nous disons.
Quando saranno docili?
Ces gens, jusqu'à quand seront-ils dociles ? Ils souffrent.
Fino a quando saranno docili,
jusqu'à quand vont-ils rester dociles ?
A capire adesso che
et nous commençons
non più tanto
à
docili.
Comprendre maintenant que justement, ils sont un peu moins dociles.
Nous allons écouter un court extrait d'un des films qu'on voit dans la rétrospective que vous consacre le Centre Georges Pompidou. Et comme à chaque fois que le Centre Pompidou fait une exposition rétrospective avec des cinéastes, la même question est posée à tous. On vous l'a donc posée. Où en êtes-vous ? On écoute un court extrait.
Una tranquilla domenica ai margini del bosco. Il caminetto, il gatto, la lettura. Un boato. E davanti ai miei occhi passa Yervan come folle. Si getta nell'erba bagnata del prato. È una torcia umana, alte fiamme sul corpo e sulle mani. Lo segue esterrefatta. prendo un secchio di inutile acqua, grido «la salvia!» È un enorme cespuglio in cui Yervan si getta. Durante l'estate non risponderà più e rimane l'impronta, l'ombra del corpo. Finalmente le fiamme si spengono, ma continuano a bruciare le vesti. Con grandi forbici taglio via i brandelli infuocati. Gli occhi di Yervan sono dilatati e pieni di fuliggine. Hanno preso fuoco capelli, baffi, un po' gli orecchi, la gola.
Hélène Joguet, vous avez la gentillesse de nous traduire. On a compris le sens, mais avec plus de précision.
Bien sûr, avec un récit, avec quelque chose qui se passe mal, puisque vous vous retrouvez donc pris par le feu, avec des brûlures, des blessures. On se jette dans un buisson pour essayer de calmer ses douleurs. Récit donc de cet événement particulièrement... difficile.
Alors, que s'est-il passé? Donc, c'est Yervan. Est-ce que votre travail est dangereux? Manifestement, Yervan, oui. Vous avez failli mourir à cause de ces pellicules qui sont inflammables. Et on a l'impression que c'est au risque de votre vie que vous continuez à faire votre travail tous les deux. Oui. Angela.
Nous avons fait l'effet général, l'effet public de l'Irak, Afghanistan, tout. Et nous avons fait notre fait privé, personnel. Nous avons pensé beaucoup mettre ces parties, parce que c'est beaucoup angoissant. Pour moi, lire, c'était une grande fatigue. Se renouvelle tout la tragique situation. Nous avons pensé que c'est une partie importante aussi pour faire comprendre notre grande fatigue de travailler avec ces matériaux. Et aussi, j'ai dit que quand nous avons reçu tous les pavillons arméniens à l'île des Arméniens de Venise, nous avons gagné le Lion d'or. Pour moi, c'est comme une... J'ai crié comme une folle parce que je pensais que nous sommes encore ensemble depuis la tragédie du foie. Quoi.
Et donc, vous allez continuer à travailler, Yervan?
Bien sûr.
Oui.
Vos mains étaient brûlées dans cet accident qui vous est arrivé.
Oui.
Vous n'avez pas pu travailler pendant quelques temps.
Oui, nous n'avons pas travaillé pour... Il faut les blessures du fait dure des années. Et alors, c'est mes mains, j'ai de la peau de ma jambe sur mes mains et aussi sur ma poitrine. Nous sommes retournés de l'hôpital de Turin à Milan et Angela a voulu que je travaille le plus vite possible. Et c'était comme une cure. Je me soignais en travaillant. Je ne pouvais pas marcher, mais je travaillais assise.
Ben, merci à tous les deux. Merci à Angela Ricci-Lucchi et à Yervan Djanikian. Vous pouvez aller découvrir, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, leur travail en ce moment même dans le cadre du Festival d'automne au Centre Georges Pompidou. Et puis, vous pouvez aussi lire un très bon livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Notre caméra analytique », édité par Post Édition et le Centre Pompidou.
Merci bien beaucoup.
Et merci à Hélène Joguet qui a traduit les propos d'Angela de l'italien. Merci à Cédric Chatelus, Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa, Didier Lagarde. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture.